Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr, je ne suis pas sûr, mais...
Et Nico Paz, il a vraiment fumé comme une cigarette après avoir fait l'amour, si je peux me permettre.
Moi, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Je pense que ça peut être du 50-45 pour le Real, mais pas forcément beaucoup plus.
C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. C'est que tous les petits problèmes qu'on veut se mettre sous la... sous le tapis, pardon.
20h-22h, Génération After.
Jean-Louis Tour.
La deuxième heure des drôles de dames pour tout le foot européen sur RMC, sur After Foot TV. On va parler dans cette deuxième heure peut-être d'un effet De Zerbi à Tottenham. Julien Laurence l'évoquera. Ça a bougé à Villarreal. On a assuré la Ligue des Champions, mais on se projette déjà avec un changement d'entraîneur. Et puis, c'est toujours aussi compliqué cette deuxième partie de saison pour le Milan. Daniele Manucia nous en parlera. Voilà quelques sujets à venir. En plus du suivi des matchs en direct, bien sûr, et de la semaine de Ligue des Champions. Donc on a évoqué Bayern PSG, le match retour qui sera mercredi, et demain 21h Arsenal Atlético de Madrid. Ce sera bien sûr sur RMC, grande soirée Ligue des Champions. Il y a eu un partout à l'aller. Et ce week-end, eh bien, on a vu un beau visage d'Arsenal, Julien. Belle victoire contre Fulham, avec en plus un doublé pour Gyökeres et un retour notamment de Saka qui semble modifier tout le visage de l'équipe. Julien ? Julien Laurence ? Ah, il n'est pas là, Julien ? Non, il n'est pas là. Alors d'accord, on va commencer par l'Atlético. Edgar, t'es là toi?
Ben oui, je suis là. Oui. Bon, je crois qu'il est trop concentré sur PSG et Bayern, Julien.
C'est possible. Mais Arsenal, normalement, ça arrive à attirer un peu son attention, un petit peu. Quoi. L'Atlético, ils ont fait tourner. Oui. Ils ont gagné quand même à Valence 2-0, mais il y a quand même encore pas mal de doutes autour de cette équipe.
C'est moi là.
Oui, bien sûr.
Oui, Vas-y Edgar, non, vas-y sur l'Atlético.
On parle depuis des semaines dans cette émission, à chaque fois on le mentionne rapidement, mais sur le fait qu'ils font beaucoup tourner en Liga. Mais je voulais rentrer un petit peu plus en détail pour que tout le monde se rende compte à quel point ils font tourner. Je vais vous donner le 11 de l'Atlético ce week-end. Hein. Juan Musso, Julio Diaz, Clément Lenglet, Robin Lenormand, Javier Boniard, Nahuel Molina, Thiago Almada, Obed Vargas, Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza, Ryan Belaïd. Et après, tu avais encore deux joueurs qui étaient... les deux buteurs d'ailleurs sont sortis du banc, Iker Luque et Miguel Kubo. Sur ces joueurs-là, tu as 7 joueurs qui comptent moins de 5 matchs en pro. Rendez-vous compte, hein. 7 joueurs qui comptent moins de 5 matchs en pro. Donc c'est même pas l'équipe B, c'est l'équipe C. Même les joueurs que tu veux faire entrer en fin de match en Ligue des Champions, tu ne les fais pas jouer. Julian Alvarez n'a plus joué une seule minute en championnat, en Liga, depuis le mois de mars. Donc c'est vraiment le pragmatisme poussé à l'absolu, c'est-à-dire que Diego Simeone, il a décidé, à raison, hein, que le championnat, il n'en avait plus rien à faire parce qu'il n'y avait plus rien à jouer, ils étaient qualifiés, ils allaient se qualifier par Ligue des Champions.
Ils ont 10 points d'avance sur le 5e, donc c'est sûr qu'ils choisissent. Non, mais il n'y a pas que chez toi.
Il
hein.
n'y a rien à jouer.
Le PSG donc, fait ça, le Bayern fait ça. C'est, à mon avis, c'est un truc dont il va falloir s'habituer et qui va aller aussi avec l'évolution du foot. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les autres pays, mais à mon avis.
Mais là, il le fait quand même depuis plusieurs semaines. Ces mecs-là, ils ont 3-4 matchs en pro et ces 3-4 matchs-là viennent sur ces dernières semaines. Et moi, je m'interroge sur l'utilité et à quel point c'est efficace. Parce que oui, faire tourner son équipe pour donner de la fraîcheur, évidemment, ça on est tous d'accord et ça se fait depuis la nuit des temps. Maintenant, quand je vois des leaders qui ont très très peu de minutes, j'ai cité Julian Alvarez qui d'ailleurs s'est blessé dans le match. Alors, est-ce que c'est un lien ou pas, j'en sais rien, et il devrait pouvoir être là demain, mais il y en a d'autres, hein. Lookman qui a aussi eu des petits pépins, il a joué 20 minutes en Liga sur toute cette période là donc est-ce que en jouant si peu t'arrives à avoir le rythme pour jouer ce genre de rendez-vous? Est-ce que c'est bon aussi de moins enchaîner? Parce que ce sont des joueurs, mine de rien, qui ont l'habitude d'enchaîner. Est-ce que c'est bon aussi d'avoir à chaque fois tes repères qui sont perdus tous les 3 jours, etc. Je m'interroge surtout que sur le match aller, Jean-Louis, j'ai trouvé qu'Arsenal, autant on a senti qu'Arsenal parfois manquait de fraîcheur, autant j'ai pas senti l'Atlético au-dessus physiquement, et surtout je les attendais beaucoup plus forts grâce à leur changement sur la fraîcheur sur la fin de match. Et ça, je l'ai pas vraiment senti. Donc, c'est pour ça que je m'interroge un peu.
Ouais,
surtout
ouais.
Que, en fait, Simeone, il fait un pari, mais son pari enfin, moi, est déjà moitié si, raté puisqu'il a raté la finale de coupe.
Oui, alors ça sur la finale de coupe, d'accord. Mais je pense que s'il fait pas tourner, peut-être il n'existe pas du tout contre Arsenal au match aller. Tu vois, s'il fait pas tourner en championnat, peut-être que cette fraîcheur qui t'a pas sauté aux yeux a fait qu'ils ont au moins arraché le nul et qu'ils auraient même pu l'emporter.
Bien sûr, mais là Jean-Louis, en fait,
tu vois sur le rythme Dembélé par exemple, il joue presque plus en Ligue 1 et ça l'empêche pas d'être très bon en Ligue des Champions.
Ouais, mais tu regardes par exemple la compo du PSG sur les derniers matchs de Ligue 1. On est quand même s'ils font tourner, on n'est quand même pas sur la moitié de l'équipe, plus de la moitié de l'équipe qui a moins de 5 matchs en pro.
Non, mais
il y a
bien
quand
sûr.
Même
non,
une différence.
C'est vrai.
Et encore une fois, moi je veux bien.
Pour le coup, Strasbourg fait ça.
Et si elle marche.
En faisant tourner normalement.
Ouais, non, mais, si elle marche, tout le monde dira, mais Diego Simeone, c'est un génie, etc. Et je pense qu'il a eu raison de lâcher le championnat. Mais mine de rien, le fait d'avoir raté la coupe, en fait, tu te rends compte que là, tu peux terminer ta saison, si t'arrives pas à faire l'exploit, parce que ce serait un exploit de gagner avec des champions, avec absolument rien, et là ton bilan en plus de ça, tu regarderas le classement et tu te diras, ah ouais, en fait on est à 25 points du leader. Donc en plus de ça, on s'est raté sur le championnat.
Mais après,
donc, en
fait,
sur le papier,
aussi,
la saison elle sera cata.
C'est aussi le gros revers de la médaille de cette réforme des championnats, qui fait que les 4 premiers sont assurés d'être en Ligue des Champions, et que bah, du 2e au 4e, si tu sais que tu peux pas aller jouer le titre et que la 5e place est loin, bah t'as plus aucun intérêt à finir ton championnat.
Et tu fausses le championnat aussi. Hein.
En plus.
Tu fausses le championnat.
En plus, ouais.
Parce que tu vois, là, on a vu le Bayern tout à l'heure qui a fait match nul contre Heidenheim. Mais si le Bayern n'y revienne pas, par exemple, parce que Compagnie met des Ndiaye et des jeunes à droite, à gauche, etc. Si Valence, hier, contre l'Atlético, avait gagné et était encore vraiment à la lutte avec Séville et Alavés pour pas descendre l'Espagnol, etc. Et qu'il gagne 3-0 parce qu'en face, t'as une équipe qui a 18 ans de moyenne d'âge avec des mecs qui ont jamais joué en Liga ou un ou deux matchs comme ça. Si toi, t'es les autres dans cette bagarre là pour pas descendre et que tu les as joués il y a 2 mois et qu'ils t'ont mis 4-0 avec leur équipe A, t'es dégoûté franchement, et ça devrait pas exister non plus, hein.
C'est vrai. Alors ça, après, c'est aussi le lot d'un championnat, d'avoir un peu de chance au calendrier pour tomber au moment où cette équipe a plus rien à jouer. Tu peux te dire aussi que c'est le lot du championnat. Parfois tu joues une équipe qui a un blessé,
regarde la NBA par exemple, regarde le fameux tanking en NBA pour les fans d'NBA qui nous écoutent. Ils sont en train de chercher des...
Oui, ils cherchent des solutions pour cette fin de saison
parce que en fin de saison, les 20 derniers matchs, ceux qui veulent absolument avoir le numéro 1 de la draft, ils font tout pour perdre. Et à un moment, là, c'est pas pareil. Je sais bien, là, je suis allé dans l'extrême, etc. Et quand je parle de fossé, c'est un gros mot, et je veux surtout pas insulter Simeone ou l'Atlético, mais vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où, bah oui, forcément, il y a 2 mois, l'Atlético était bien plus fort en championnat parce qu'il avait l'équipe A tout le temps que là, ces dernières semaines.
Ouais. Je crois que Polo, tu voulais ajouter un mot.
Séville qui est mauvais a battu l'Atlético B.
Non, mais ce que dit Julien est très juste. Mais regardons Aston Villa ce week-end. C'est-à-dire que même si tu mets ton équipe A, ils peuvent très bien lever le pied. Et donc ça, c'est parce que je pense que le match de
c'était pas l'équipe A d'Aston Villa, justement. C'est bien.
Non, mais oui, mais tu peux même mettre une équipe A si t'as envie. C'est-à-dire que
s'ils pensent à l'autre échéance, ils seront pas bons.
Ils vont courir 10 km de moins. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent dans le détail. Donc, moi, je pense qu'un groupe, enfin, quand t'as un groupe de 30 joueurs, tu l'utilises en fonction d'eux. Et alors, c'est dommage. C'est le problème. En fait, c'est la chance ou la malchance de ton tirage, de ton calendrier, en fait. Parce qu'il y a des scénarios où tu te trouves bien, il y a des scénarios où ça tombe mal. Évidemment, le fait que le Bayern égalise dans les arrêts de jeu, le Heidenheim, ils auraient presque été, j'ai pas envie de dire sauvés, mais avec leur calendrier, ils auraient peut-être pu sauver cette saison. Mais c'est inhérent au système du calendrier et du système de championnat. Donc, c'est délicat de trouver une bonne solution.
Alors, puisqu'on a retrouvé Julien, donc on peut revenir sur Arsenal.
Désolé, je suis allongé aux enfants là.
Pour moi, ça fait partie de la magie des drôles de dames. Si tu réponds tout le temps bien à chaque fois qu'on te donne la parole, je me dis il y a un problème quelque part, tu vois. Là au moins on est bon. Donc
je vais juste expliquer pourquoi j'étais pas là, j'étais dans la cuisine en train de faire à manger aux enfants Laurence. Voilà.
D'accord, mais ils savent pas qu'il y a une émission le lundi soir.
Mais là ils m'ont fatigué, ils me cassent la tête les trois là, donc voilà, en fait. Voilà.
D'habitude ils mangent jamais, je crois, le lundi soir.
Mais si, mais d'habitude je pars, enfin voilà, bref.
Oui, tu fais manger avant et là t'as oublié et
voilà,
tu viens de te dire.
Non, mais là c'était un peu, ouais, voilà. C'est jour férié en Angleterre en plus aujourd'hui, mais bon, c'est compliqué.
Ah, c'est-à-dire que t'as fait une grosse journée avec les enfants.
Je dis, c'est une question d'éducation tout ça.
Ah. Oui, parce qu'il y en a bien qui est assez grand pour faire à manger pour les autres, non?
Ouais, mais il est pas là. Après, il vient. C'est un peu compliqué chez nous.
Bon.
C'est toujours compliqué chez nous.
Ok, bon, ça marche.
Moi, je pensais qu'il écoutait l'émission.
Ouais, on pensait aussi, mais bon, évidemment, ils ont mieux à faire.
Enfin, si t'écoutes toutes les émissions de Julien dans tous ces médias, ils s'en sortent plus après.
Ah bah tu vas plus à l'école.
Ah bah ils font que ça.
Bah tu vas plus à l'école.
C'est déscolarisé.
Bon alors, donc je disais Arsenal. Donc eux, ils ont pas le luxe de faire tourner, mais pourtant on sent un peu de fraîcheur de nouveau. C'était ça sur le match de Fulham.
Ouais, c'était ça un petit peu effectivement. Samedi, c'est ce qu'il fallait d'ailleurs. Hein. C'est vraiment les Anglais ont cette expression qui est assez marrante, qui disent c'est ce que le docteur avait demandé en fait. Well, the doctor ordered. Il fallait après ce qu'on avait vu ces dernières semaines, qui était quand même pas glorieux, même s'ils ont été, ils sont restés solides. Mais ça faisait 8 matchs, ils n'avaient pas marqué plus d'un but par match, par exemple. À chaque fois, il y avait qu'un but. Défensivement aussi, ça n'a pas non plus toujours été super costaud. Et donc là, il fallait une grosse performance avant ce match retour contre l'Atlético, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Plus les 3 dernières journées de championnat où tout va jouer pour le titre avec City. Tu l'as dit, Jean-Louis, qui est en train de jouer en ce moment à Everton. Il fallait absolument gagner pour prendre 6 points d'avance avec 2 matchs d'avance. Hein, donc c'est pas vraiment une avance, mais c'est un truc un peu en sursis, entre guillemets. Et surtout, pas forcément se rassurer, mais montrer que tu étais capable de mieux jouer, que tu pouvais te créer beaucoup plus d'occasions que ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, contre une équipe de Fulham qui est un peu en vacances aussi, il faut être honnête, hein, qui n'était pas non plus là, qui n'a pas pressé, qui était finalement l'adversaire idéal pour te remettre dans le bain et retrouver du rythme et de la confiance et une dynamique assez positive finalement aussi. Donc ça a été parfait. Plus le retour de Bukayo Saka, plus celui de Ricardo Calafiori,
oui,
plus la titularisation de Miles Kelly, au milieu, qu'on n'avait pas vraiment vu cette saison à ce poste-là et qui a montré encore une fois pourquoi on l'a pas plus utilisé. Même Arteta à la fin du match a dit je dois être un idiot parce que j'aurais dû le faire plus tôt finalement cette saison. Ce changement-là et je l'ai pas fait parce que Luis Kelly dans cette position-là, encore une fois, quand l'adversaire s'y prête, ce qui est pas toujours le cas, mais quand l'adversaire s'y prête parce qu'il manque un petit peu quand même de mobilité et d'athlétisme, je t'ai
laissé finir pour
qualité athlétique.
Il aura pas
ce qualité athlétique, voilà. Merci les gars, heureusement vous êtes là. Heureusement, vous
ah non, moi, quand même, moi je t'ai laissé te noyer parce que je pensais au jingle qu'on aurait pu récupérer.
Bah, je crois qu'il y a déjà merci ce jingle exact, non?
Ah déjà, d'accord. Bon.
il me dit quelque chose.
Bon, on a compris l'idée en tout cas.
Mais voilà, c'est effectivement, c'était tout ce qu'il leur fallait. Gyökeres a mis 2 buts, il en est à 21 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Ce qui est pas au niveau d'Haaland ou de Kane ou de
Mbappé. Quand même, ouais.
Mais qui est quand même pas si mal, je suis d'accord avec toi. Et surtout, tu vois les progrès en 2026, une fois le temps d'adaptation écoulé, dans un sens.
C'est fini les matchs où on le voit plus du tout, en fait. On n'arrive pas du tout à le toucher du match, quoi. Ça, c'est fini.
Voilà, par exemple, hier, alors encore une fois, le but de Saka, donc le deuxième but d'Arsenal, c'est Gyökeres qui fait l'appel en profondeur, qui est bien servi par Eze, qui protège bien le ballon, qui se retourne et qui met un super bon ballon, sincèrement, dans le dos du défenseur Robinson, qui doit sûrement faire mieux, mais qui peut-être anticipe pas parce que c'est Gyökeres qui est sur le ballon et on sait que c'est pas trop son genre de truc. Et après, Saka finit très bien. Donc c'est des choses qu'on aurait peut-être pas vu faire au mois d'octobre, novembre, par exemple, mais que là, il l'a fait, encore une fois, parce qu'il a aussi eu l'espace, parce que je pense qu'il est plus en confiance. Donc, pour l'instant, en tout cas, de la façon dont Arsenal pouvait préparer la rencontre de demain contre l'Atlético, c'est exactement ce qu'il leur fallait.
Bon, très bien. Eh bien, rendez-vous donc demain pour voir cette rencontre. Bien sûr, pas de question d'infirmerie, il n'y a pas de blessés de dernière minute là, des deux côtés, il n'y a pas d'infos importantes là-dessus?
Non, c'est bon. On attend pour Julian Timber qui est absent maintenant depuis pas mal de temps et qui leur fait du mal parce que c'est un joueur très important et c'était un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Et on n'est pas sûr exactement quand il va revenir, mais ça devrait être là bientôt, mais on ne sait pas exactement quand. Kai Havertz devrait être de retour dans le groupe pour le match de demain. Pas titulaire, je pense. Odegaard aussi sera là, alors qu'il avait été mis au repos ce week-end. Donc tu devrais avoir finalement, à part Timber, tout ce qui est à de mieux. Après, à toi de choisir finalement les bonnes combinaisons, notamment les deux latéraux. Est-ce que tu fais White et Calafiori encore? Est-ce que tu mets Luis Kelly quelque part? Tu fais revenir Zubimendi? Ce que je voulais terminer pour dire, même si je sais que j'ai beaucoup parlé, on a vu aussi ce que je trouve très intéressant, mais c'est peut-être pour une autre fois ou peut-être même demain dans l'avant-match, une petite évolution tactique chez Arteta. Regardez bien demain, vous verrez Rice décrocher très bas entre Saliba et Gabriel, par exemple, ce qu'on voit depuis quelques matchs maintenant, mais qu'on voyait pas trop avant. Et finalement, en possession, vous verrez, c'est plus un 3-1-6. Un petit peu comme ce que fait Hurtzler à Brighton et ce que fait Guardiola à City aussi, avec donc Rice qui revient très bas. Ensuite, un Zubimendi, par exemple, qui est un peu comme Bernardo Silva ou Pascal Gross, devant cette défense-là à 3, pour faire le lien, finalement, entre ces 3-là et les 6 de devant, qui, eux, sont, occupent bien la largeur du terrain. Mmh. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir cette évolution-là, un peu en fin de saison comme ça, de la part d'Arteta.
Bon, on en reparlera demain. Donc, dans l'avant-match, t'as raison, de ce Arsenal-Atlético de Madrid, donc, demi-retour de Ligue des Champions. Oui.
Jean-Louis, tu parlais des blessés. Juste, ouais. Côté Atlético, il y a 3 interrogations par rapport au match aller. Sorloth, Giuliano Simeone et Julian Alvarez. Ils se sont entraînés aujourd'hui et Simeone a dit que la décision finale, surtout, on va dire, par rapport à leur temps de jeu, sera prise demain.
Ok. La magie des drôles de dames, c'est qu'on passe en un claquement de doigts d'une demi-finale retour de Ligue des Champions à la lutte pour le maintien en Bundesliga. Et Polo, tu voulais nous parler de Sampaoli qui a perdu clairement le match qu'il fallait pas perdre.
Oui, c'est bon. En fait, moi, ce que j'adore dans ces équipes qui sont amenées à jouer le maintien sur le papier en début de saison, c'est que il y a toujours un moment où, en fait, la réalité de la qualité de ton effectif te rattrape. Et bah, ce match de la 32e journée contre Mayence, qui était quasiment sauvé avant cette rencontre, bah, c'est transformé finalement en un match à 3 points qu'ils ont perdu à domicile, qui est un petit peu la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Et j'essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce que ces équipes tombent finalement. Est-ce que c'est juste qu'une question de qualité, le collectif ne fonctionne pas, le coach, etc. Et ce que je constate, c'est que sur les 11 joueurs qui ont commencé la rencontre ce dimanche, alors c'était pas un match d'une grande qualité, et Mayence a mené à la mi-temps 2-0, c'est que il y avait sept joueurs qui, plutôt des trentenaires d'ailleurs, qui ont fait partie de l'épopée de la montée il y a 2 ans. Donc c'est pas des joueurs de 23 ans qui deviennent à maturité ensuite, c'est déjà des gars qui ont de la bouteille, et s'ils sont à 30 ans en seconde division allemande, c'est qu'il y a des raisons quand même. Et je regarde les 4 joueurs qui ont été achetés ou qui ont été prêtés, et il y en a eu un seul, Fujita, qui est un international japonais, qui est une vraie plus-value, donc un véritable achat intéressant. D'ailleurs, je ne connais pas son contrat en cas de descente en seconde division, mais peut-être que il y a des recruteurs en France, il ferait bien de s'intéresser à cet international japonais. Et tu te dis finalement, ben, sur la continuité, déjà l'année dernière, il s'était sauvé, c'était délicat, mais on va dire que c'est la première saison. La deuxième saison, c'est grand classique, en plus en Bundesliga. Comme t'as réussi à surperformer en première année, ben, tu te fais piquer tes meilleurs joueurs. Il y a Troyeux, par exemple, qui est retourné à Fribourg, acheté 5,5 millions, etc. Je constate aussi que Sampaoli, bon, évidemment, c'est pas un grand club de Bundesliga, c'est un club qui est plus connu pour ses opinions politiques, etc., ses positionnements idéologiques, etc. N'en est, depuis la création de la Bundesliga, qu'à sa 10e saison, finalement. C'est le fameux, eux-mêmes s'étaient définis il y a 10-15 ans maintenant, on s'était posé la question, mais c'est quoi Sampaoli? On veut dire, on est dans le top 25 du football allemand. Donc ça avait beaucoup choqué à l'époque, parce que top 25 signifie que t'es pas dans les 18 de la Bundesliga. Mais en fait, ils se disent, c'est exactement ça. Nous, chaque année, on veut monter, mais on n'a pas forcément vocation à rester en Bundesliga. Le problème, c'est que cette année, si tu veux, je trouve que c'est extrêmement limite dans un club qui, pour la première fois de son histoire, a dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui paraît à rien comme ça à l'échelle de la Bundesliga, faut pas l'oublier. Mais si Sampaoli avait 100 millions et était en France, je peux vous assurer qu'ils auraient un autre type d'effectif.
Il serait première moitié. Tableau, oui.
Et donc c'est quand même très important de voir à quel moment les dirigeants ou le directeur sportif ou le coach s'est-il trompé, se sont trompés pour essayer d'assurer ce maintien. Pour être honnête, 26 points après 32 journées, tu es un candidat à la relégation. Il y a pas à se poser de questions. Par contre, ce qui m'énerve, c'est quand on commence à attaquer Alexander Blessin, le coach que je suis depuis plusieurs années, que j'avais adoré lors de son passage à l'Union Saint-Gilloise en Belgique en 2023-2024. Et ce qui est étonnant, c'est que quasiment la moitié de l'effectif type qu'il avait à l'époque, elle joue en Bundesliga. Mais il y en a un seul qui joue à Sampaoli. Donc les meilleurs joueurs de son époque sont à Wolfsburg, c'est Amoura par exemple. On peut penser à des joueurs qui sont à Cologne, on peut penser à Machida qui est blessé, qui est à Hoffenheim. C'est pas du tout les mêmes standings. Et donc finalement, on se retrouve que si on peut conclure que si Sampaoli se retrouve à ce niveau-là, c'est parce que la qualité de l'effectif et le collectif ne permet pas de se sortir en Bundesliga. Et je pense que c'est une excellente leçon, parce qu'il y a l'autre club d'Hambourg. Il y a le Hamburger Sportverein, oui, qui est monté cette saison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils sont allés chercher des prêts en première ligne, notamment, avec un super gamin que connaît très bien Julien, qui est Vuskovic en défense centrale. C'est pas du tout la même chose, Vuskovic. Il vaut ça, il vaut 60-80 millions pour moi déjà sur le marché aujourd'hui. C'est pas du tout la même. Il y a Vieira, le Fabio Vieira, le Portugais qui est prêté par Arsenal. Ça t'augmente la qualité technique de ton équipe. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit, ce qu'a décidé Zhang Paoli.
Mais tu veux dire que c'est un bon, il y a un bon entraîneur, mais qui a pas forcément le matériel qu'il faut.
Mais ils ont pas le matériel qu'il faut au bout d'un moment. Et tu peux, ça fait 18 mois maintenant, enfin presque 20 mois que Zhang Paoli fait des exploits, s'arrache sur le terrain court, plus de 120 km par rencontre, etc. Mais il y a un moment où ça s'essouffle, il y a plus d'essence dans le moteur et où là, sa qualité technique, de toute façon, le football, faut pas se pleurer, hein. C'est comme Karl Marx, c'est la lutte des classes. Il y a un moment, quand tu arrives à ton niveau maximum que tu peux tirer de ton effectif, eh ben, tu redescends, parce que t'as un plafond de verre, et donc il faut investir. Ils ne l'ont pas fait, ou tout du moins, ils ne l'ont pas fait d'une façon correcte et pas assez de mon point de vue. Je pense qu'ils vont descendre, même si, encore une fois, ils sont encore trois équipes pour le poste de barragiste, mais Wolfsburg a pris un point à Fribourg, qui évidemment pense à sa demi-finale retour d'Europa League, et Heidenheim n'est pas complètement sorti. Mais Heidenheim, c'est pareil. Les deux plus faibles équipes sur le papier début de saison, c'est Heidenheim, Zhang Paoli, qui est 18e, qui est 17e en fin d'exercice 2026, c'est Heidenheim et le FC Zhang Paoli.
Et Najim m'indique qu'en dernière journée, il y a un Zhang Paoli et Wolfsburg.
Exactement, pour la place de barragiste.
Ah, c'est magnifique. Ce sera un pré-barrage, du coup, entre les deux.
Voilà, avant c'est le pré-barrage. Exactement.
Retournons en Italie. Retournons sur un train qui n'arrive pas à l'heure. En tout cas, sur la deuxième partie de saison, Milan, c'est toujours aussi catastrophique, hein, Daniele.
Bah oui. Ils ont perdu contre Sassuolo un match qu'ils perdaient 11 contre 11. Dans les premières 20 minutes. Oui. Après, il y a eu l'expulsion pour deuxième carton jaune. Si l'arbitre aurait été sévère, il aurait donné même trois cartons jaunes à Tomori dans les premières 20 minutes, tellement qu'il était vraiment pas dans le match. Et ça, après, on va peut-être parler de peut-être les raisons de ça. Mais donc après, ils étaient 11 contre 10. Et bon, c'est une équipe qu'elle a du mal à jouer à 11 contre 11. Imagine-toi s'ils ont 11 contre 10. Sassuolo, c'est une équipe qui joue la moitié du tableau, et qui vient de se faire, comment dire, elle vient de la deuxième division, même s'il avait beaucoup plus de qualité en deuxième division. Il y a Berardi, vous connaissez peut-être les joueurs de Berardi, il était de l'équipe nationale aussi. C'est une chose incroyable. S'il jouait tous les semaines contre Milan, c'était des ballons d'or. Il a marqué, je pense, quelque chose comme 16 ou même plus buts en 20 matchs contre Milan. Donc c'est vraiment des stats incroyables. Et par contre, après, il y a la prestation de Milan. Allegri, il a dit, c'était le pire match de la saison. C'est pas ça arrive pas dans un bon moment, parce que le Milan, il est pas encore sûr d'avoir la quatrième place. Allegri, il a dit, il faut pas jeter toute l'année dans ces peu de matchs ratés, on va dire. Mais il y a aussi l'idée que c'est ça le vrai Milan, quoi, que ça c'est la réalité d'une équipe qui a été sur les épaules de ces individus, ces meilleurs joueurs jusqu'ici. Après, il y a Rabiot qui a une petite baisse de forme, Modric, Vous le savez peut-être pas, mais contre la Juventus, ils lui ont cassé le, comment on dit, l'os au-dessous de l'œil, le zigomo en italien. Et il a une fracture.
Ah, donc, la pommette.
Ah oui.
La pommette, voilà. En deux parties. C'était Locatelli. Ah oui. En fait, voilà, moi je pense que Locatelli qui fait finir la saison de Modric, c'est un bon symbole pour le football italien. Le joueur le plus technique au milieu de terrain, qui s'est fait blesser par un joueur très très défensif comme Locatelli, qui a pas beaucoup à donner dans la construction et dans la fantaisie. Donc, mais sans Modric, ils ont aucune idée, ils sont aucune rétention de ballon, ils souffrent, ils sont passifs, et c'est une des pires équipes effectivement en Serie A. Après, Allegri, il fait comme si c'était de la pluie. Pour revenir à Marx, non, il y a des choses pour Marx, l'art, c'était comme la pluie. C'est bien, s'il y a pas, c'est pas grave. Pour Allegri, si le football, il est là, c'est bien. S'il y a pas, c'est pas grave. Mais c'est aussi sa faute, parce qu'il a des joueurs. Yachari, c'est un des achats les plus chers de l'histoire de Milan. Il fallait les faire jouer, il fallait l'entraîner mieux. Si, après, quand il joue comme ça, Ricci, c'est un joueur qu'il a pas d'autre utilisé à Allegri, il a utilisé mal. Leao, c'est un joueur, il était pas déjà dans un bon moment quand il arrive à Allegri. On disait Allegri, il va le faire revenir en numéro 9, il va le redécouvrir comme attaquant, comme buteur. Ben là, franchement, Léo, c'est pire qu'avant. Je ne sais pas comment il va faire la Coupe du Monde. Il n'est pas en forme, il n'a pas de rôle, il n'a jamais joué à gauche, que c'est son vrai, sa vraie position. Donc, je pense que c'est un Milan qui est pire de l'été dernier.
Et tu le disais au classement, attention, parce que la Roma mène 3-0 hein, contre la Fiorentina dans le match en retard en ce moment, après seulement 37 minutes, ce qui fait que la Roma revient virtuellement dans l'histoire, hein, à 3 points seulement de Milan, et donc Milan qui compte 2 points d'avance sur la Juve, donc oui, attention à 3 journées de la fin.
Juste pour revenir sur les stats de Berardi, les données de manière précise parce qu'elles sont assez folles. Il a fait 21 matchs contre le Milan. Il a marqué 12 buts et 7 passes décisives. Donc en 21 matchs, 19 fois il a été décisif sur un but. Donc c'est vraiment son équipe préférée. Oui, le Milan, il faut.
Mais c'est quoi ces stats? On ne t'a pas ces stats générales pour voir la proportion?
C'est les stats d'un 21 match qu'il a joué dans toute sa carrière contre le Milan partir de 2014.
Mais si c'est ses seuls buts en carrière ou passes décisives en carrière, tu vois, c'est très parlant. Mais s'il y en a beaucoup autour, bon.
Non, il a marqué pas mal de buts, il a fait pas mal de passes décisives, mais pas avec cette proportion-là. Ouais. Berardi, c'est un joueur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a marqué? Je vais te regarder ça, mais je pense que s'il a marqué 15 buts dans une saison, c'est déjà beaucoup.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Sur 163 buts en carrière, voilà, depuis le début de sa carrière. Voilà pour le Milan, donc, et les difficultés. Je vous ai parlé du score de la Roma en direct. Il y a toujours 0-0 sur les autres pelouses entre Everton et Manchester City et entre Séville et la Real Sociedad. On revient dans une seconde pour parler de Villarreal qui a validé donc sa qualif en Ligue des Champions. On va dire un mot de Bournemouth, de l'effet de Zerbi à Tottenham et on n'oublie pas vos minutes également. Bien sûr, à tout de suite pour les drôles de dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Jean-Huit
Tour. 21h29, les drôles de dames sont là. Julien Laurence, Paulo Breitner, Edgar Grollo et Daniele Manoussia pour une demi-heure encore jusqu'à l'arrivée de l'after avec Gilbert Bribois, Walid Acharchour et Daniel Riolo. Alors, Edgar, parle-nous donc de Villarreal qui a fini sa saison, qui a validé la place en Ligue des Champions. C'est la grosse réussite de la saison en Liga.
Bien sûr, c'est en Liga, ils ont une régularité assez dingue, exceptionnelle, et avant que l'Atlético ne lâche complètement la fin de saison, ils étaient déjà devant eux. Donc franchement, chapeau sur leur parcours en Liga. Et d'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire du club que Villarreal se qualifie deux fois d'affilée pour la Ligue des Champions. Donc c'est une vraie réussite, et évidemment c'est la réussite aussi de Marcelino l'entraîneur. Maintenant, faut mettre en perspective aussi, il y a eu cette énorme déroute en Ligue des Champions où ils ont fait honte quelque part à l'Espagne du foot, où ils étaient parmi vraiment les pires équipes de la compétition. Ils ont perdu aussi face à une équipe de deuxième division en coupe, donc ça fait un petit peu tâche. Et ce qu'on a appris aujourd'hui,
c'est que Marcelino n'allait...
C'était absolument catastrophique. Ce qu'on a appris aujourd'hui, donc c'est officiel, hein, ça a été officialisé par le club, c'est que Marcelino ne serait pas l'entraîneur de Villarreal la saison prochaine, malgré cette superbe troisième place. Alors il se fait pas virer, son contrat a touché à sa fin. Mais c'est vrai qu'il va pas
continuer.
C'est
curieux quand même,
non ? Ça peut surprendre.
Ça peut
surprendre quand on voit qu'ils sont troisième, quand on voit aussi le jeu qu'ils ont proposé. Ils ont bien joué. C'était agréable de les suivre. Mais finalement, c'est pas si surprenant que ça. Déjà parce que finalement l'échec en Ligue des Champions, il a quand même pesé. Il a déçu même au sein du groupe, hein, parce que t'as des joueurs aussi qui rêvaient, qui sont restés à Villarreal ou venus à Villarreal, ou en tout cas qui voulaient jouer pour Villarreal pour aussi briller en Ligue des Champions. Et ils ont pas eu cette possibilité-là, même si c'est aussi la faute des joueurs. Donc ça a énormément pesé. Marcelino aussi, c'est un entraîneur qui, dans le management des joueur, est très particulier, et je pense que ça a été peut-être le facteur numéro un, ou en tout cas l'un des facteurs numéro un, pour se dire bon, ton contrat arrive sur la fin, on va pas le renouveler, on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que c'est assez pesant pour les joueurs. Ils ont un effectif qui est extrêmement large, et Marcelino ne jure pas du tout par les statuts, c'est-à-dire que d'un match à l'autre, t'as un joueur qui va jouer 0 minute et qui le lendemain va être titulaire 90 minutes. Et c'est vrai que pour les joueurs, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué à apprivoiser, compliqué à lire, compliqué à comprendre. Et je pense que c'est aussi pour ça que le groupe a eu du mal à enchaîner sur plusieurs tableaux, parce que forcément, t'avais des joueurs qui étaient déçus de pas jouer certaines compétitions ou certains matchs. T'avais des grands joueurs qui étaient reposés sur des grands matchs en championnat pour préparer les Ligues des Champions ou vice versa. Et donc c'est un petit peu, voilà, Marcelino, dans la gestion des joueurs, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que ça a énormément pesé et donc ça donne des facteurs.
Il y a des noms qui circulent pour le remplacer.
Ouais, le favori c'est Inigo Pérez du Rayo Vallecano. Ouais. Et je serais très intéressé de le voir là, parce que alors là c'est vraiment le type de club vraiment à l'opposé total. Je veux dire, que ce soit dans au niveau des supporters, des infrastructures, des moyens aussi, Inigo Pérez là, on va pouvoir aussi voir ce qu'il vaut dans cette dimension de club, et surtout je pense que c'est très intelligent de sa part de rester dans un championnat, alors c'est pas fait hein, mais s'il allait à Villarreal, de rester dans un championnat qu'il connaît, dans un club on va dire intermédiaire de Villarreal, découvrir, il a découvert la Conference League, là la Ligue des Champions, ce serait je pense potentiellement un très bon match, et surtout que tu sens qu'Inigo Pérez c'est vraiment un entraîneur qui peut bien faire jouer ses équipes si tu lui donnes les moyens, donc ça pourrait être un très beau match pour l'année prochaine.
Puisqu'on est sur lui et sur le Rayo Vallecano, il y a des infos à donner avant le match de jeudi pour les Strasbourgeois qui nous écoutent.
Écoute, je pense qu'ils ont vu sur la première partie de cette double confrontation les deux visages du Rayo. Premier assez inoffensif, c'était pas une super première période, mais Strasbourg a pas réussi à en profiter. Et deuxième, en fait, un Rayo quasiment à son meilleur niveau. Même le coach avait dit qu'il avait halluciné. Donc maintenant, la question pour les Strasbourgeois, c'est de se dire quel Rayo on va voir, parce que généralement à l'extérieur, c'est plutôt le Rayo de la première période et plutôt un Rayo en plus beaucoup plus fébrile défensivement, comme on a vu par exemple à Athènes. Donc l'enjeu, il va être là, et je pense qu'on va le sentir assez rapidement. Donc pour Strasbourg, il va vraiment falloir je pense annoncer la couleur très rapidement match-là et faire en sorte que le Rayo ne soit pas dans un grand soin ou dans une grande moitié de soirée, comme en fait Strasbourg les a laissés avoir cette deuxième période exceptionnelle sur le match aller.
Ça, ce sera donc jeudi la demi-finale retour de Conference League dans cette grande soirée européenne sur RMC. La Coupe d'Europe, ce sera le lot de Bournemouth sans doute la saison prochaine, Julien. C'est pas encore fait, mais ils sont 6e avec 52 points. Encore une belle victoire et un but de Elie Junior Kroupi.
Ouais, Elie Junior Kroupi qui est extraordinaire. Son deuxième but de la saison en championnat. Alors oui, il y a quelques pénaltys, mais il fait souffler un vent de fraîcheur sur la Première Ligue. On en avait déjà parlé un petit peu. J'ai fait quelques minutes sur lui. On a déjà parlé d'Iraola et de Bournemouth. Iraola qui fait un travail fantastique avant de quitter le club donc à la fin de la saison. En il l'espère, les qualifiant pour la première Coupe d'Europe de leur histoire. Peu importe laquelle, hein, la Ligue des Champions... Il faudrait un petit miracle. Ils sont 6 points derrière à 3 journées de la fin. Mais quand tu vois la dynamique positive qu'ils ont, ils sont invaincus depuis 15 journées. Quand tu vois, on a parlé tout à l'heure de Liverpool, donc qui a été battu ce week-end, Aston Villa qui a été battu ce week-end, qui, pour Aston Villa en tout cas, espère se qualifier jeudi pour la finale de l'Europa League contre Nottingham Forest après leur défaite au match aller. Tu te dis, peut-être pourquoi pas, de la part de Bournemouth. Le prochain match de Liverpool, par exemple, c'est contre Chelsea. Le prochain match de Villa, c'est à Burnley. Bon, ça devrait gagner. Mais Bournemouth, eux, ils ont Fulham à l'extérieur, donc ils peuvent aussi gagner. Ensuite, un Aston Villa Liverpool, où forcément, ils vont se prendre des points l'un à l'autre puisqu'ils s'affrontent. Et en même temps, malheureusement pour Bournemouth dans un sens, mais c'est City à domicile, et on sait qu'à domicile, Bournemouth réussit en général très bien contre les gros, y compris City et Arsenal par exemple sur les dernières saisons. Et puis après tu auras une dernière journée où ils vont aller à Nottingham Forest, où Villa va à Manchester City par exemple, et Liverpool reçoit Brentford qui d'ailleurs est 7e, un point derrière Bournemouth juste, et pas si loin finalement non plus de la Ligue des Champions. Donc il peut se passer plein de choses. Iraola donc cherche un club pour la saison prochaine, il a des ambitions assez élevées, on m'a dit, dans le genre de club où il aimerait bien continuer sa carrière. Donc en gros, ce sera pas un équivalent du Rayo.
Et pourquoi il reste pas aussi?
Pardon?
Pourquoi il reste pas?
Je sais pas. La saison dernière, déjà l'été dernier, c'était poser la question s'il fallait rester ou pas rester. Je pense qu'il a compris qu'il avait fait le maximum. S'il termine sixième ou même s'ils font un top 5, je pense pas qu'il pourra faire une saison encore mieux que ça. Il sait très bien que les meilleurs joueurs vont partir cet été, peut-être même Kroupi lui-même, peut-être Senesi va partir parce qu'il est en fin de contrat et c'est un de leurs meilleurs joueurs, si ce n'est leur meilleur joueur aussi, en tout cas dans les postes défensifs. Donc encore une fois, un peu comme l'été dernier avec le départ de Huysen et de Zabarni et de Kerkez, il va se retrouver avec avec encore une fois les deux meilleurs joueurs de son équipe vendus. Peut-être qu'il avait pas envie de ça et peut-être qu'aussi je pense qu'il a compris qu'il était arrivé à un niveau où aujourd'hui il peut viser un Manchester United par exemple, il peut viser un Chelsea et surtout je pense que, et dans tous nos championnats d'ailleurs et partout cet été-là, ça va être le grand manège des entraîneurs où je pense que beaucoup de clubs, parce que si tu regardes sincèrement à part Compagnie au Bayern, à part sûrement Flick à Barcelone, à part Luis Enrique au PSG, à part Arteta, je pense, à Arsenal. Et chez toi, Daniele, en Italie, sûrement Spalletti, sûrement Gasp aussi. Mais ça peut changer au Milan, à l'Inter qui vous va rester, mais ça peut changer au Milan, ça peut changer au Real, ça peut changer dans beaucoup de clubs anglais, comme Liverpool, comme Manchester United, comme Chelsea, comme Manchester City peut-être, si Guardiola décide de partir. Donc je pense qu'il Raoul sait qu'il y aura... S'il y a un été où tu es un entraîneur et que tu peux changer de club et avoir une promotion, c'est sûrement l'été carré.
C'est l'été où il faut être en fin de contrat, en gros. Ouais. Très bien. Voilà donc pour la course à l'Europe en Angleterre. La minute italienne, c'est parti.
Stanza d'Indianapolis è buia ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico è un universo sordo.
Ça, c'est une chanson de Roberto Vecchioni qui chante avec Francesco Guccini. Ça s'appelle Ti insegnerò a volare, c'est deux chanteurs de Bologne et qu'ils ont dédié cette chanson. Cette chanson, elle est écrite pour l'histoire de Zanardi. Alex Zanardi, un ancien pilote de Formule 1 qui vient de mourir le 1er mai. Il était un pilote de Formule 1 sans grand succès, un pilote de Formule 4, là c'était un grand pilote de Formule 4, mais le 15 septembre 2001 il a eu un accident terrible à plus de 300 km/h. Sa voiture a été coupée en deux, ses jambes coupées en deux. Il a survécu à 7 arrêts cardiaques. Il y a eu un moment où il avait qu'un litre de sang dans son corps, mais il a survécu et dès qu'il a pu, il est revenu au sport, en fait, encore une fois, comme sa raison de vivre. Il est devenu champion des handbikes, ces vélos qu'on propulse avec la force des bras. Il a même contribué à les améliorer en dessinant la structure. Il a gagné 4 médailles d'or et 2 d'argent aux Jeux Paralympiques. Par contre, il a eu un autre accident il y a 6 ans. Cette fois, c'était un camion sur les routes de l'Italie. Il a résisté, mais là, le 1er mai, il est mort. C'était une personnalité charismatique qui a aussi fait de la télévision. Il racontait des histoires de sport. Il a inspiré pas seulement de nombreuses personnes en situation de handicap, en les poussant à dépasser leurs limites autant que possible, mais aussi beaucoup de personnes ordinaires, entre guillemets, parce qu'un tel caractère, un tel esprit, c'était tout simplement exceptionnel. C'était même l'un des sportifs les plus importants de l'histoire du sport italien. Je pense qu'on va s'en souvenir pour longtemps.
Eh bien, écoute, c'est un bel hommage que tu lui as rendu. Au moment où l'Italie va peut-être récupérer un champion du monde de Formule 1, avec Antonelli.
Oui, un peu, oui. Qui a des Bologne comme lui.
Et voilà. Eh bien, très bien. Merci, Daniele, donc, pour cet hommage. On revient dans une seconde pour la dernière partie des Drôles de Dames, avec peut-être donc enfin l'effet de Zerbi à Tottenham. Julien va en parler. Et puis encore un mot sur la course à l'Europe en Allemagne. Restez avec nous. Il y aura également la minute de Julien, qu'on n'a pas fait encore. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Jean-Louis Tour.
La dernière partie des Drôles de Dames avant l'after à 22h avec Daniele Manoussi, Apollo Breitner, Julien Laurence et Edgar Grollo. Ça a pas bougé sur les pelouses où on suit les matchs en direct, 0-0 entre Everton et Manchester City, entre Séville et la Real Sociedad. Et c'est la mi-temps 3-0 pour la Roma face à la Fiorentina. Il nous reste à parler donc, de l'effet de Zerbi à Tottenham, de la course à l'Europe en Allemagne. Et avant cela, vous savez qu'il y a désormais la collection Drôles de Dames sur afterfoot.shop. Donc vous pouvez retrouver les sweats, les t-shirts, les mugs, les chaussettes avec les phrases cultes des drôles de dames. Vous les connaissez par cœur le lundi. Il y a 100 euros de bons d'achat sur la boutique afterfoot.shop à gagner tout de suite. Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16.
Jouer et gagner sur RMC avec la collection Drôle de Dames de la boutique Afterfoot. Sweats et t-shirts exclusifs à retrouver sur afterfoot.shop.
Au moment où Manchester City vient d'ouvrir le score à Everton avec le but de Jérémy Doku, donc pour les joueurs de Pep Guardiola, peut-être une victoire qui se dessine, donc très importante pour remonter sur Arsenal. Ça fait partie des deux matchs en retard à gagner pour Manchester City. Mais on va à l'autre bout du classement, Julien, en bas de tableau, où Tottenham a donc gagné et l'effet de Zerbi se poursuit.
Ouais, c'est bien. Alors, il a, c'est troisième match, c'est la deuxième victoire de suite. Donc, après celle contre Wolverhampton, autant Wolverhampton dans le contenu, c'était pas dans la performance, c'était pas génial, génial. Ils avaient fait ce qu'il fallait, ils avaient marqué sur coup de pied arrêté. Autant là, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure d'Aston Villa et Unai Emery avait fait beaucoup de changements, des joueurs qui avaient clairement pas envie d'être sur le terrain, pas envie de jouer, des Barclay, des Sancho qui avaient rien à faire là. Mais ça n'enlève rien au mérite de Tottenham quand même, parce que j'ai été dur quand il le fallait avec eux et avec Desherby à son arrivée notamment. Et là, il mérite qu'on le félicite parce que c'était une très, très bonne performance déjà dans sa composition d'équipe, ce qui était très bien malgré les absents, malgré les blessures. Encore une fois, pas de Xavi Simons, pas de Solanke, ce qu'ils ajoutent à la longue liste d'absents aussi qu'ils ont depuis le début de la saison, mais surtout dans l'intensité, dans les intentions de jeu avec ballon, dans l'agressivité aussi, ce qu'on n'a pas eu du tout l'habitude de voir avec cette équipe là depuis en tout cas pas régulièrement cette saison. Mais là ils ont tenu, ils ont marqué tôt par Gallagher, ce qui aide forcément après 12 minutes de jeu quand ils ont tellement bien commencé la rencontre qu'ils mènent au score, et ça leur arrive pas souvent non plus. Et puis après, ils ont vraiment contrôlé. Aston Villa n'a pas eu une frappe avant la 60e minute, je crois. Ils ont eu une touche de balle dans la surface de Tottenham jusqu'à la 70e minute. Enfin, c'était vraiment à sens unique, à Villa Park en plus, pour Tottenham. Donc vraiment bravo. Surtout que West Ham avait perdu samedi. Donc c'était l'opportunité parfaite finalement pour Desherby et Tottenham de sortir enfin de cette zone de relégation. Et maintenant, selon moi en tout cas, maintenant qu'ils en sont sortis, je les vois vraiment pas, même s'il y a qu'un point d'avance sur, ils ont qu'un point d'avance sur West Ham, mais une meilleure différence de but, mais je les vois pas retomber maintenant dans cette zone de relégation là, dans les trois derniers.
Et Desherby, globalement, il laisse quelle impression là pour l'instant?
Sincèrement, pour moi, ça avait été plutôt mitigé sur les premières performances parce que, comme je l'avais expliqué à Sunderland, par exemple, son premier match, alors que ça fait déjà 10 jours qu'il était là, j'avais rien compris à ce qu'il avait voulu faire, donc, ouais. Ni dans sa composition d'équipe, ni dans la tactique, ni dans le plan de jeu. Autant contre Brighton, c'était un petit peu mieux, mais t'avais quand même Xavi Simons qui t'avait sorti deux moments de classe mondiale, son but et sa passe d'ess, et l'erreur de Verbruggen qui avait fait que, même si t'avais mené longtemps au score, t'avais pris un but en fin de match, c'était déjà un petit peu mieux. Wolverhampton, il fallait gagner, ils ont gagné.
Mais au-delà des matchs, je parlais un peu de l'impression aussi en conf de presse, vu que j'ai vu qu'il faisait le un peu le cinéma entre guillemets qu'il a fait à Marseille sur moi je suis quelqu'un du peuple, etc. En gros, il a ressorti toutes les ficelles de l'OM quelques semaines après à Londres.
Complètement.
Ça, on aime bien pour l'instant.
Alors, c'est pas forcément qu'on aime bien, parce que tant que là, ça gagne deux matchs d'affilée, oui. Par exemple, il a dit quelque chose vendredi dans sa conférence de presse d'avant-match que j'ai eu un peu de mal à comprendre, en disant ouais, ici de toute façon, tout le monde pleure déjà et tout le monde pense qu'on est déjà relégué en gros.
Ouais.
Alors qu'il venait de gagner le week-end d'avant, qu'il y avait un peu de... C'était plus positif, qu'il y avait une petite dynamique quand même assez intéressante, même si c'était que Wolverhampton, mais bon quand même, ils n'avaient pas gagné de match en 2026, donc à un moment même gagner un seul, même chez les derniers, c'était quand même bien. Ils avaient trouvé qu'au lieu de dire à tout le monde ouais c'est positif, on va construire là-dessus, on va ça va nous entraîner, c'est entraînant, etc., ils nous avaient sorti ouais tout le monde pleure déjà, j'ai l'impression que tout le monde pense qu'on est déjà relégué, etc., et c'est pas ce qu'il faut. Mais bon, là, ils ont gagné encore, et surtout, c'est leur meilleure performance depuis qu'il est arrivé, donc à son quatrième match. Ils ont Leeds lundi prochain, donc dans une semaine, Leeds à domicile. Leeds qui est déjà maintenant maintenu, et bon, je pense qu'il devrait gagner aussi. Donc, ça va mieux, en tout cas, sur le terrain, dans les résultats. Et lui, on verra un peu dans quel état d'esprit et dans quelle humeur il est cette semaine.
Bon bah très bien, ça fera partie des attractions de la fin de saison en Angleterre. Merci Julien. La course à l'Europe en Allemagne, Polo. Et donc, est-ce que Leipzig doit s'inquiéter après cette grosse défaite contre Leverkusen? Il y a 4 points d'avance encore, hein, mais bon, à 2 journées de la fin, faut faire attention quand même.
Non, c'était assez génial parce que le calendrier, justement, on en parlait un peu avant, nous a offert Leverkusen contre Leipzig et Hoffenheim contre Stuttgart. Donc évidemment, il y aura des perdants pour la qualification Ligue des Champions. On va mettre Leipzig de côté parce qu'il restait sur 5 victoires à la suite et honnêtement, avec 4 points d'avance, vu qu'il joue Saint-Pauli le week-end prochain, ça devrait être réglé. Ce qui est impressionnant par contre, c'est la performance de Leverkusen qui était depuis plusieurs semaines sur un tempo assez moyen où Kasper Hjulmand était critiqué, etc. Et on a retrouvé le Leverkusen qu'on voulait voir, à tel point qu'on a recommencé à critiquer Leipzig dans le sens où Leipzig ira sûrement en Ligue des Champions l'année prochaine, sauf catastrophe. Mais pour faire quoi? Il va falloir se poser la question d'avoir un vrai banc, de savoir comment on veut jouer exactement, quel est le véritable niveau d'Ole Werner, etc., comme le coach. Parce qu'on peut pas se reposer tout le temps sur Diomande, hein, il faut réfléchir à tout ça. Moi, ce qui m'a plu, évidemment, c'est le triplé de Patrick Schick, c'est le fait qu'on ait retrouvé un Leverkusen de très très haut niveau. Donc, c'est quand même une saison très très spéciale pour Leverkusen, qui était évidemment une année de transition, mais qui est capable de se planter lamentablement en Bundesliga, mais en même temps d'aller l'emporter en Ligue des Champions à Manchester City, par exemple. Quoi. Donc c'est un peu normal. C'est une
et d'en prendre 7 contre le PSG.
Et d'en prendre 7 en début de saison contre le PSG, ou de révéler Maza, qui a encore été assez exceptionnel ce week-end. Donc c'est un peu les deux tendances à Leverkusen. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 3 équipes à 58 points. Et là, c'est délicat, parce qu'il y avait l'autre match, Hoffenheim, le derby Hoffenheim contre Stuttgart. Hoffenheim, bon, moi, c'est l'équipe révélation de la saison, c'est assez exceptionnel, je voudrais les voir en Ligue des Champions. Ils ont atomisé Stuttgart, ils mènent 3-1, etc. Et on se dit, bon, ça va réussir, et finalement 3-2, mais Stuttgart se fait Carazor, on en parlait avec Najib le week-end dernier, se fait expulser à la 70e minute, et Stuttgart réussi à aller chercher l'égalisation durant les arrêts de jeu, un peu comme le Bayern contre Heidenheim, 3-3 par Thiago Tomás. Et si tu veux, ça laisse Stuttgart en vie, sauf qu'il y a le problème du calendrier. Stuttgart va jouer Leverkusen, va recevoir Leverkusen le week-end prochain, tandis qu'Hoffenheim, joue encore à domicile contre Brême, qui n'est pas sauvé, mais qui est en fin de classement, jouera Mönchengladbach à la dernière journée, qui est déjà sauvé. Donc on en revient au débat qu'on a fait tout à l'heure sur le. Voilà. Ouais. Sauf que, moi, je voulais Hoffenheim en Ligue des Champions parce que c'est l'équipe surprise. Je rappelle l'anecdote qu'on avait fait. On avait interrogé Massengo dans le podcast After Allemagne sur Augsbourg et on lui avait posé la question quelle est l'équipe qui l'a le plus impressionné cette saison. Tout le monde s'attendait évidemment qu'ils disent le Bayern et il disait Hoffenheim. Et Hoffenheim a fait mal à tout le monde cette saison avec Christian Ilzer, qui est un coach que j'adore, mais très spécifique de la galaxie, qui est vraiment dans la philosophie de la galaxie Red Bull avec des coachs, des équipes très énergivores, etc. Donc, le problème, évidemment, c'est de jouer l'année prochaine en Ligue des Champions tous les 3 jours. Ça va être délicat. Mais le grand mec qu'il y a, c'est que cette équipe, surperformant évidemment, t'as les joueurs, ils ont été repérés par les grands clubs européens. Et qui dit grands clubs européens veut dire évidemment la Première Ligue aujourd'hui. Surtout quand il y a des grands clubs comme Liverpool qui ont peut-être des problèmes d'effectifs. Ou quand il y a le Barça qui cherche un successeur à Lewandowski. Et là, on a le jeune Touré, évidemment, qui a 20 ans, qui n'est là que depuis 18 mois et qui a un joueur, c'est un bolide, il va à 200 à l'heure sur le terrain, c'est l'une des révélations de la saison. Hoffenheim a déjà fixé la somme pour l'acheter, c'est 40 millions, donc ça veut dire que 40 millions plus. Donc ça veut dire que l'année prochaine, s'il part, tu n'as plus du tout le même Hoffenheim qu'on aurait voulu voir. Aslani, évidemment, on en parle beaucoup.
Mais ça, tous les clubs sont habitués quand même, Polo, maintenant. Ils sont préparés à ça, ils anticipent, non?
Ouais, mais ça va super vite. Moi, ce que je constate, c'est un peu comme les joueurs sur le terrain. Les transferts de joueurs se font de plus en plus rapidement. Et moi, depuis quelques années en Bundesliga, alors très bien, c'est très bien pour les recruteurs allemands des clubs de Bundesliga qui arrivent à choper des gamins de 18, 19 ans qui explosent. Hein. Je pense à Diomande, évidemment. On sait même pas s'il sera là encore l'année prochaine. Mais il est juste là depuis un an. C'est-à-dire qu'ils ont à peine le temps d'arriver que déjà, on récupère la plus-value. Alors évidemment, ça assure la pérennité du club, tout ce que tu veux, etc. L'Allemagne n'est pas la France, on va dire ça d'une façon très simple. Mais dans le projet sportif, tu restes frustré. Moi, si j'ai Hoffenheim l'année prochaine en Ligue des Champions, déjà que j'ai des questions sur cette capacité avec l'effectif qu'il a, Christian Ilzer, de pouvoir jouer tous les 3 jours, d'enchaîner Ligue des Champions, championnat, si en plus on commence à m'enlever Touré et Aslani, où j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, Ben, c'est pas du tout le même plaisir que je vais prendre, parce que on va dire l'année prochaine les gens l'analyseront en plus, ah oui mais c'est génial, ils jouent en Bundesliga, ils jouent la Ligue des Champions, blablabla, bla, bla, et ça se trouve ils vont nous faire une Villarreal avec un point quoi, et c'est parce qu'ils n'auront pas réussi à retrouver les mêmes styles de joueurs, etc. Il faut reformer systématiquement, ça devient un peu pénible au bout d'un moment. Maintenant encore une fois, le système est comme ça, tant qu'on changera pas le système, voilà, c'est compliqué.
Bon,
donc oui, je pense que Stuttgart va tout perdre, c'est-à-dire qu'ils seront pas en Ligue des Champions. Et il y a une grande question, puisque je crois que j'ai rarement vu ça dans l'histoire du coefficient UEFA, où des équipes se battent comme ça pour aller chercher la cinquième place. Il y a pas grand-chose entre l'Espagne et l'Allemagne pour la cinquième place qualificative, enfin la deuxième place, le deuxième meilleur du coefficient UEFA qui offre la cinquième place en Ligue des Champions. Et ça va se jouer, je pense, cette semaine entre le Rayo, entre le Bayern et entre Fribourg. Et ça, ça peut donner la deuxième place à l'Allemagne, qui offrirait la cinquième place en Bundesliga, donc peut-être Hoffenheim, donc peut-être Leverkusen. Mais en tout cas, je pense que celui qui est le plus mal barré, malgré le point pris ce week-end, c'est Stuttgart.
Très bien, bah, c'est complet sur la lutte pour la Ligue des Champions et les places donc juste derrière en Allemagne. La minute anglaise.
J'ai mis un petit banger pour toi, mon Jean-Louis, comme tu étais là ce soir, et je sais pas quand est-ce que tu reviendras, je t'ai mis un petit, alors t'es trop jeune encore, hein, bien sûr, je pense que
bien.
Polo,
connaît ouais,
bien
moi, je Nick
Kershaw,
parce que
Nick bien
Kershaw,
sûr,
et, alors, et en plus pour faire... Est-ce qu'il l'a donné la solution de l'énigme?
Bah non, je crois pas, hein. En tout cas, moi je la connais pas. Mais parce que cette chanson s'appelle The Riddle,
The Riddle.
Exactement, tout à fait, mon Polo. Parce que Nick Kershaw vient de Ipswich, effectivement, en East Anglia. Ipswich qui remonte donc en première ligue un an après avoir été relégué de la première ligue. Kieran McKenna et ses joueurs ont accroché lors de la dernière journée du Championship, qui était samedi, une journée assez magnifique finalement, parce qu'il y avait plein de choses à jouer pour la montée automatique, pour les places en play-off et tout ça. Et donc bravo à Ipswich, parce que avec Coventry ils ont été la meilleure équipe, avec un effectif qui était quand même de qualité, faut le dire, même s'ils avaient perdu quelques joueurs l'été dernier comme Delap et Hutchinson, ça restait une très très bonne saison et ça reste une très bonne équipe. Donc bravo à eux pour ce retour donc en première ligue. On connaît aussi maintenant les barragistes, donc ceux qui feront les playoffs pour la troisième place pour monter en première ligue. On aura une première demi-finale entre Middlesbrough et Southampton en match aller-retour, l'autre avec Hull City et Millwall, les deux grosses surprises bien sûr, qui ont fini troisième et sixième, pareil match aller-retour. Et puis après la grande finale, on la connaît, hein, c'est le fameux match à 150 millions d'euros pour la montée entre donc les vainqueurs de ces deux demi-finales à Wembley à la fin du mois de mai. Mais donc voilà, bravo à Ipswich, à Kieran McKenna et donc à Nick Kershaw aussi bien sûr pour cette chanson et pour le fait qu'ils viennent de là-bas.
Magnifique, t'auras fait le meilleur choix musical de la soirée, Julien. Donc
à peu près
ouais. Donc Manchester
Apollo City, c'était pas mal.
Apollo, c'était pas mal, oui. Bah là, toi, ça te rappelle tes soirées.
C'était pas mal,
Edgar. C'est bon,
ce qu'on appelle un banger dans le milieu quand même.
Ah mais vous dites ça, mais Polo, tu laisses dire ça?
Non, mais je sais pas ce que c'est qu'un banger, donc
c'est une masterclass, tu vois.
Ouais, une tuerie,
c'est un.
Mais j'aime bien la langue française sinon quoi. Mais Nick Kershaw, non c'est bon là, c'est son meilleur sub je pense, de loin.
Ouais, en plus, ouais, je suis d'accord.
Donc Julien, est-ce que t'as pu jeter un œil à la première mi-temps de Manchester City à Everton?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, joli but des deux coups d'ailleurs, à la 43e, mais ils avaient dominé, même s'il n'y avait peut-être pas eu forcément de très très grosses occasions non plus avant ça, mais ils ont eu 75% de possession de balle par exemple. C'est le match dont on s'attendait, c'était pas là qu'ils allaient perdre des points sincèrement, donc je suis pas du tout surpris par la domination, par l'avantage au score non plus. Ils vont gérer la seconde période, après on le sait, on l'a déjà dit, hein, ça se jouera aussi peut-être à la différence de but, peut-être même au nombre de buts marqués. Donc 1-0 c'est bien, il faut qu'ils gagnent quoi qu'il arrive. S'ils peuvent gagner 2 ou 3-0 ou 4-0, ils vont pas s'en priver non plus.
L'autre match en retard, c'est Crystal Palace. Et donc, il y a encore Brentford et Aston Villa pour Manchester City.
C'est ça, effectivement.
Ouais, on voit pas trop où ils peuvent lâcher des points, oui.
Non, ouais, t'as raison. Et donc, Arsenal à West Ham, Burnley et Crystal Palace pour finir. Donc, tu peux dire la même chose du côté d'Arsenal. Donc, effectivement, ça pourra jouer comme en 2012, la fameuse année du but d'Aguero. la différence de but, au nombre de buts marqués, tout ça. Parce
là,
que
la différence de but, il y a 3 buts d'écart entre City et Arsenal.
C'est ça, ouais. Plus
mais,
3,
mais,
plus
mais t'as 3 le match en retard, Arsenal. Donc, où tu peux déjà, si tu gagnes, refaire le retard. Ah, ça va être, tout à fait, ça ouais, va être bien.
Tout à fait, tout à fait. Et dans les buts marqués, ils en sont au même nombre, 67 chacun.
Ah ouais. Bon, passionnante course au titre, donc City qui mène 1-0. C'est pas fini encore contre Everton, hein, on suivra ça
non, on a la pause,
dans l'after
on a la
pause. Tout à l'heure, donc c'est la mi-temps. 0-0 aussi entre Séville et la Real Sociedad. Edgar, là, il se passe moins de choses.
Écoute, Séville est pas mal, hein. Sincèrement, Séville est pas mal et ça se voit qu'ils ont. Il y avait une ambiance incroyable à l'avant-match avec un petit peu comme il y avait eu lors de l'Atlético Arsenal, les rouleaux de PQ qui sont balancés sur la pelouse.
Ah, ça,
c'est
ça
pas la
plaît,
première
ça.
Fois évidemment ouais. à Séville. Ouais. ouais, c'est magnifique, ambiance un peu à l'Argentine. Et ouais. tu sens que les joueurs ils ont compris tout l'enjeu et ils sont vraiment à fond. Et d'ailleurs, c'était marrant, il y avait Goodell qui avait dit on peut pas descendre, c'est pas possible avec cette équipe, on peut pas descendre. Et il l'a dit dans le mégaphone hier aux supporters. Et là, tu sens qu'ils prennent le match. Par le bon bout, mais bon. Ils n'ont pas réussi à marquer pour l'instant.
On donnera le résultat.
Il se passe un truc de fou, Jean-Louis, en Italie aussi, hein, parce qu'il marque des buts sur la Roma.
Ah oui, la Roma mène 3-0.
Ça marque des buts.
Ça vient de reprendre contre la Fiorentina.
Ouais, en une mi-temps, hein, ça marque des buts. Je ne sais pas ce qui se passe.
En une demi-heure même, c'était fou. Allez, merci,
la seule
messieurs.
Chose à retenir,
oui.
C'est,
oui.
C'est un bon match de Manu Koné qui est rentré de sa blessure. Voilà.
Ah, c'est pas mal aussi pour les Bleus, ça. Merci, Daniele, Julien, Polo, Edgar.
Merci à toi, ouais, Jean-Louis.
On vous retrouve tout au long de la semaine, bien sûr, pour la Ligue des Champions, pour les concernés. Et à lundi prochain 20h avec le retour de Nico Jamin. L'after arrive tout de suite avec Gilbert Bribois.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.